J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que peut-être les uns sont encore en vacances et pour d'autres peut-être préparent la rentrée. Peut-être que vous êtes de ceux qui ont envahi les magasins à la recherche de cahiers, à la recherche de stylos, à la recherche de différentes fournitures pour vos enfants. Peut-être vous avez des enfants peut-être plus grands maintenant et peut-être que c'est eux qui ont envahi les magasins pour aller chercher leurs nouvelles parures pour l'école ou plutôt pour l'université ou pour là où ils vont. J'aimerais ce matin vous parler d'une école particulière. Rentrer, nous sommes tous invités à rentrer dans cette école, dans une école où nous allons apprendre de belles choses, de grandes choses. Mais pour pouvoir rentrer dans cette école, il nous faut prendre conscience d'une chose particulière. Prendre conscience de notre nature. Nous ne pouvons pas rentrer dans cette école sans prendre conscience de qui nous sommes. Et ce que nous sommes est bien triste. Si nous prenons le temps de gratter un petit peu notre cœur, nous voyons qu'à l'intérieur de notre cœur, il y a plein de choses pas bonnes. Peut-être qu'il y a de l'envie. Peut-être qu'il y a de l'orgueil. Peut-être qu'il y a des pensées qui ne sont pas justes, des pensées mauvaises. Et si nous prenons le temps de regarder un peu toutes ces choses, nous voyons que nous sommes si peu de choses. Si peu de choses face à tout ce qui nous entoure, face à la nature, face aux éléments de cette nature, face peut-être même aux circonstances qui peuvent nous arriver. La maladie, la santé qui défaille, face à la nature qui fait un petit peu des fois n'importe quoi, on est si peu de choses. Et certains essayent en tout cas de chercher des solutions face à cette nature qui est si défaillante. Notre nature si défaillante. Certains passent du temps dans le développement personnel. On va payer cher des personnes qui se disent experts pour pouvoir nous enseigner des choses qui vont nous aider à progresser dans le développement personnel, qui vont nous donner des techniques pour pouvoir être des meilleures personnes, pour pouvoir être mieux, mieux dans son travail, mieux dans sa vie personnelle, mieux en tout. On va peut-être même aller jusqu'à payer des personnes pour pouvoir guérir des maladies. Trouver peut-être des personnes qui ont trouvé la solution miracle à telle ou telle maladie dont j'ai. Et peut-être plein d'autres choses encore. Mais ce dont nous avons Si nous avons conscience que de notre nature, ce dont nous avons besoin de prendre conscience encore plus, c'est que nous avons besoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le seul à pouvoir répondre à tous nos besoins. Nos besoins de reconnaissance, nos besoins d'être satisfaits dans notre vie personnelle, notre besoin de bonheur. Jésus-Christ est le seul à pouvoir répondre à tous ses besoins, à pouvoir répondre à notre défaillance. Jésus-Christ est le seul. Jésus-Christ est venu sur la terre pour prendre ma place, pour mourir à ma place et payer le prix de ma faute. Mais il faut toutefois que je reconnaisse que j'ai des fautes, que je ne suis pas parfait, mais que lui est parfait. Et si lui est parfait, eh bien lui seul peut eh bien, m'apporter la solution dont j'ai besoin. M'apporter la solution dont j'ai besoin. Lui seul peut m'accorder cette vie éternelle. Peut-être que plusieurs cherchent, en passant peut-être par la chirurgie esthétique pour pouvoir encore être jeune. Peut-être en faisant des recherches ou en contribuant à des recherches pour la cryogénisation, pensant que voilà, dans quelques temps, eh bien, on va arriver à nous faire revivre et on vivra encore plus longtemps encore. Si on passe peut-être du temps à dépenser de l'argent dans toutes ces choses, eh bien, toutes ces choses sont vaines. Parce que la seule solution, c'est Jésus. Jésus qui est le seul à pouvoir nous accorder la vie éternelle. Le seul à pouvoir nous amener dans un endroit qui s'appelle le ciel. Le seul qui peut nous réconcilier avec Dieu, parce qu'il est là le problème. Nous sommes séparés de Dieu par notre nature pécheresse. Notre nature pécheresse nous éloigne de Dieu, nous met une séparation entre moi et Dieu. Et ce dont j'ai besoin, eh bien c'est de Dieu, de reconnaître mon besoin de Dieu. Et Jésus-Christ est le seul à pouvoir répondre à ce besoin, à pouvoir combler ce besoin parfaitement. Jésus-Christ est le seul à pouvoir me sauver et me réconcilier avec Dieu par sa mort et sa résurrection à la croix. Jésus-Christ a accepté de mourir sur la croix pour que je puisse être sauvé et accéder à cette vie éternelle. Sans Christ, pas de salut. Sans Christ, pas de vie éternelle. Si je choisis aujourd'hui de mettre ma confiance en Jésus-Christ, j'ai cette assurance de pouvoir passer l'éternité avec Dieu et avec lui dans le ciel. Mais cela ne s'arrête pas là. Cela n'est que le commencement des choses. Et je vous invite à voir la suite, à ce que la parole nous invite à faire et à suivre si nous voulons marcher avec Christ. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4 et nous lirons à partir du verset 17. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 17. Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme des païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est et ce qu'on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour être juste et saint conformément à la vérité. C'est pourquoi, débarrassé du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain, ne sommes-nous pas membres les uns des autres ? Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. En Christ, nous avons le pardon de nos péchés. En Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. En Christ, nous pouvons vivre cette relation avec Dieu par Christ. Et cette relation dans laquelle Christ nous amène, nous conduit à une responsabilité. Cette responsabilité, c'est de marcher d'une manière digne de Christ. Christ nous a appelés à son salut. Christ nous invite à le connaître. Et s'il nous invite à le connaître, il nous invite à marcher à la hauteur de sa connaissance. Mais marcher à la hauteur de sa connaissance, c'est quelque chose qui demande de notre part un effort, qui demande de notre part une volonté, un désir, une responsabilité. Nous sommes, si nous avons reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, responsables de notre attitude, responsables de ce que nous faisons de nos pensées, responsables de ce que nous faisons de notre marche. Comment voulons-nous marcher ? Au verset 17, Paul dit « Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur, vous ne devez plus vivre comme les païens. Vous ne devez plus vivre comme ceux qui vous entourent, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Eux, ils marchent d'une manière. Vous, vous devez marcher d'une autre manière. Eux, ils ne me connaissent pas. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas sa pensée. Ils pensent à leur manière. Ils essayent de chercher des solutions à leur façon. Vous, vous connaissez Christ, alors vous devez marcher autrement. Ce verset 17 fait écho au verset 1 du chapitre 4 que nous avons vu il y a quelques semaines. Le verset 1 du chapitre 4 nous dit « Je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. » Et nous avions vu il y a quelques semaines que marcher d'une manière digne, c'était marcher à poids égal. C'était marcher à poids égal à toutes les bénédictions que Jésus-Christ nous avait acquises à la croix. C'était de marcher dans cette harmonie avec Jésus-Christ. Et si nous prenons garde à cela, si nous faisons attention à toutes les bénédictions que nous avons en Jésus, eh bien nous voyons que le programme est chargé, n'est-ce pas ? Le programme est chargé. Mais combien il vaut la peine? Combien il vaut la peine? Reconnaître mon besoin de Christ pour être sauvé, c'est rentrer dans ce plan que Dieu a préparé d'avance, ce plan d'apprentissage qui va me conduire à marcher à la ressemblance de Jésus-Christ. Une étude de l'Université libre de Bruxelles a démontré que 90% des nouveaux apprentissages ont disparu définitivement après 2 ou 3 semaines. Peut-être qu'il y a parmi nous des personnes qui sont parties en camp, qui ont peut-être fait des camps famille, qui ont peut-être fait des camps de jeunes, des camps où ils ont entendu parler de l'Évangile pendant 1 semaine, 2 semaines. Et peut-être, à la fin de ce camp, ils ont dit « ça y est, j'ai compris, je veux donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Je veux marcher avec lui. » Ils ont répondu à l'appel. Peut-être que vous êtes de ceux qui ont déjà répondu à cet appel. Il y a quelques années déjà, ou peut-être récemment. Mais il ne suffit pas de répondre à l'appel. Il suffit d'aller plus loin encore. Il ne suffit pas de dire oui, mais il faut aller encore plus loin. Dans un processus d'apprentissage, un chercheur a noté 3 erreurs courantes. La première erreur, c'est garder un bon souvenir, rester sur une belle sensation. J'ai parlé de camp tout à l'heure. Ah, c'était un beau camp. C'était super. Tu te rappelles là, quand on était là au bord du feu et qu'on était plusieurs à donner nos vies à Jésus et à dire « oui, on veut le suivre, on a entendu parler de lui, on veut marcher avec lui. » C'était beau. Et tu te rappelles, c'était il y a 20 ans déjà. C'était beau. On est resté sur une belle sensation, mais ce n'est pas aller plus loin. On a gardé un bon souvenir, mais ce n'est pas aller plus loin. La deuxième erreur dans le processus d'apprentissage, c'est de ne pas prendre note. Vous savez, dans les cours souvent qu'on donne, que les professeurs donnent, eh bien, il y en a qui vont prendre des notes et d'autres qui disent « j'ai pas besoin de prendre de notes, j'ai juste à écouter et puis je vais comprendre, je vais assimiler ce que le professeur a dit et ça me suffit. » Prendre des notes est important dans le processus d'apprentissage parce que je vais formuler avec peut-être mes propres mots ou les mots du professeur ce qui est dit. Et je vais pouvoir ensuite revenir sur ces notes et ensuite, eh bien, rentrer vraiment dans ce processus et continuer, eh bien, l'apprentissage. Qu'est-ce que je fais de la parole que j'entends? Qu'est-ce que je fais de cette parole? Est-ce qu'elle reste là? Ah, ça, c'est, j'ai entendu un bon message, c'était bien. Ça m'a encouragé ce matin. Mais peut-être qu'on peut aller plus loin que ça encore. Prendre des notes pour pouvoir les relire dans la semaine et revenir sur ce qui a été dit, entendu. Réfléchir, méditer pour pouvoir mettre en pratique cette parole et avancer. La troisième erreur dans ce processus d'apprentissage, c'est de ne pas se fixer d'objectif. Ça y est, j'ai entendu, j'ai compris, mais c'est bon. J'ai compris ce qui a été dit. Mais je ne vais pas plus loin encore. Se fixer des objectifs, c'est dire, ben voilà, j'ai appris ça, comment je vais pouvoir le mettre maintenant en pratique au quotidien? Qu'est-ce que je vais faire, par exemple, d'une leçon de français ou d'une leçon de mathématiques? Comment ça va m'être utile? Et je vais me fixer des objectifs pour me dire, bah tiens, cette semaine, cette leçon que j'ai apprise, eh bien, je vais essayer de la mettre en pratique peut-être dans tel ou tel domaine. Il en est de même dans ma vie chrétienne. J'ai appris peut-être des choses dans ma lecture quotidienne. Comment je vais le mettre pratiquement en pratique si je ne me fixe pas d'objectif? Si je ne me dis pas, bah tiens, le Seigneur me demande ça, qu'est-ce que je mets en place dans ma vie pour pouvoir atteindre ça et progresser et avancer? Ah, mais là, je vois que dans tel domaine de ma vie, j'avance pas. Est-ce que tu as pensé peut-être à te fixer un ou deux objectifs tout simples et de te dire, eh bien, cette semaine, je vais juste prendre le temps de lire ma Bible 5 minutes. 5 minutes, c'est pas énorme. 5 minutes dans la semaine, c'est rien. Juste 5 minutes. Et puis la semaine d'après, je vais dire, non, je vais me fixer un autre objectif, je vais aller plus loin encore. 10 minutes, 15 minutes, 20. Et quelques autres objectifs qu'on pourrait se fixer. Se fixer des objectifs pour pouvoir avancer. Si nous voulons progresser avec le Seigneur, si nous voulons marcher comme lui, il veut que l'on avance, que l'on marche, si nous voulons effectivement revêtir cet homme nouveau, il nous faut rentrer dans ce processus d'apprentissage de manière progressive, mais cela va prendre du temps. Et laisser le Seigneur agir et continuer d'avancer avec lui, de prendre les leçons qu'on apprend au fur et à mesure et le laisser nous transformer. Cela va nécessiter parfois du courage. Cela va nécessiter parfois de la persévérance. Je n'ai pas la force, je n'ai pas envie. Mais si nous voulons avancer, il nous faut accepter le processus d'apprentissage dans lequel le Seigneur nous invite. Notre nouvelle nature a été acquise à la croix. Elle est là. Nous n'avons juste qu'à la saisir, qu'à la prendre pour vrai. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Comment je mets en pratique cela chaque jour dans ma vie? Peut-être que vous avez des réponses et essayez de chercher vos réponses à cela. Je répète, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. L'apôtre Pierre donne dans le chapitre 1 au verset 13, il dit « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Ça, je ne peux le faire, je ne peux que rentrer dans ce processus si je ne compte que sur la grâce de Dieu. Et si je fais cet effort de tenir mon esprit en éveil, comme dit une autre traduction, de ne pas me laisser distraire par d'autres choses. Semer de nouveaux comportements pour récolter des habitudes. Semer de nouveaux comportements pour récolter des habitudes. Une habitude n'arrive pas du jour au lendemain, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. L'apôtre Paul continue au verset 25 en donnant des exemples concrets. Si nous sommes sauvés, nous ne sommes pas sauvés pour vivre seuls. Vous savez, il y en a qui sont sauvés ou qui pensent être sauvés, qui ont compris peut-être certaines choses et qui vont aller s'enfermer parce qu'elles se disent « je ne vais pas pouvoir vivre pleinement comme je devrais vivre, alors je vais m'enfermer tout seul, je vais être dans mon coin. Et là, je serai sûr de pouvoir accomplir tout ce que le Seigneur me demande. » Mais comment voulez-vous savoir si vous êtes patient, si vous ne vous confrontez pas à des choses où votre patience doit s'exercer? Comment voulez-vous savoir que vous ne vous mettez pas en colère si vous ne vous confrontez pas à des situations où la mayonnaise ou la moutarde, elle monte? Plutôt la moutarde. Comment voulez-vous savoir que vous n'êtes pas un menteur si vous ne vous confrontez pas à des situations où vous devez dire la vérité et être vrai? Comment voulez-vous savoir toutes ces choses? Quelqu'un a dit, si tu veux apprendre la patience, va à la poste. Alors peut-être qu'aujourd'hui c'est moins vrai, et encore. Dans certains endroits, c'est peut-être encore vrai. Mais le Seigneur nous a placés dans un corps qui est son Église. Et c'est là où nous pouvons expérimenter sa vie. C'est là où nous pouvons apprendre de lui, mieux le connaître dans les difficultés. Il y a des professeurs ici dans la salle et un professeur vous dira que s'il veut tester une connaissance, il est obligé de passer par un test de connaissance, par un écrit ou un oral, mais où il va tester l'élève. Eh bien, c'est la même chose avec nous. Il n'y a pas d'apprentissage sans test de nos acquis. Il n'y a pas d'apprentissage sans test de nos acquis. Si je suis sauvé, eh bien, je ne suis pas le seul à être sauvé. D'autres le sont aussi. Et d'autres sont dans la même école que moi. On pourrait dire peut-être dans la même galère. Et d'autres aussi, les autres aussi ont besoin autant que moi d'apprendre. L'apôtre Paul nous encourage à nous débarrasser du mensonge, à vivre dans la vérité, à être vrais les uns avec les autres. Et être vrai, c'est accepter de ne pas porter de masque. Vous savez, je peux arriver à l'église le matin et dire et avoir passé une semaine, mais la plus pourrie possible. Parce que dans ma famille, peut-être il se passe des choses terribles. Peut-être que dans mon travail, il s'est passé des choses terribles. Mais au lieu de reconnaître ces choses, je vais enfiler un masque. Je ne veux pas qu'on sache, je ne veux pas qu'on me pose de questions. Et je vais arriver et je vais dire, on va me dire, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Porter un masque, jouer la comédie. Le terme grec, ça veut dire être hypocrite. On n'est pas appelé à être des hypocrites, on est appelé à être vrai. À vivre les uns avec les autres. Et si j'aime mon frère ou ma sœur, eh bien, si mon frère ou ma sœur passe des difficultés, je suis appelé à le soutenir dans ses difficultés. Et je n'ai pas à avoir honte d'être dans une difficulté. Ça arrive. Ça arrive. Tout comme mon frère ou ma sœur peut passer aussi par des difficultés. Et dire que je passe par une difficulté, peut-être ça peut encourager quelqu'un à dire « Moi aussi, je passe par cette difficulté. » Si on se tait, si on se concentre à porter que des masques, eh bien, nous ne sommes pas vrais. Et nous ne pouvons pas vivre dans la vérité et nous ne vivons pas cette vérité. Et nous ne pouvons pas être comme le Seigneur veut qu'on soit. C'est les lumières. Peut-être que ma difficulté va pouvoir aider quelqu'un. Être vrai, ne pas chercher à paraître. Être vrai les uns avec les autres. Paul donne encore un autre exemple, celui de la colère. La colère en elle-même n'est pas un péché. Je peux me mettre en colère. Me mettre en colère pour des raisons justes, telle injustice, telle chose qui ne va pas. Et si je ne me mets pas en colère pour ces choses qui sont justes, ça, je dirais que ce n'est pas normal. Je dois me mettre en colère. Par contre, pour des choses justes, par contre, si je me mets en colère, je ne dois pas rester sur ma colère. Je ne dois pas la laisser gangréner mon cœur. Parfois, on peut se mettre en colère parce que, pour des raisons injustes, parce que mon besoin est bafoué, parce que je me sens frustré dans ce que je suis, dans ce que je devrais être. Parfois, je peux me mettre en colère parce que j'ai une mauvaise image de moi, parce qu'on m'a toujours dit pendant mon enfance que j'étais quelqu'un de nul. Ou peut-être qu'on a dit des choses sur moi. Et quand je vois quelqu'un parler, peut-être j'ai l'impression qu'on parle de moi. Alors ça me met en colère. Je commence peut-être à me faire des films. Des choses qui ne sont pas vraies. Peut-être que je peux me mettre en colère tout simplement parce que je suis fatigué. Et des fois, vous savez, quand on est fatigué, on peut se mettre en colère. Mais je ne dois pas rester sur cette colère. Je dois pouvoir la régler le plus rapidement possible. L'apôtre Paul parle, que cette colère s'apaise avant le coucher du soleil, que je ne laisse pas une journée passer, afin de ne pas laisser cette colère gangréner mon cœur et que ça crée en moi peut-être des paroles mauvaises ou même de l'amertume, ou de la haine, et des fois des situations se cristallisent parce que je reste sur cette colère et je ne la règle pas. Il parle du vol, il parle des paroles mauvaises, mais j'aimerais terminer, et on n'a pas le temps de tout voir ce matin, mais j'aimerais juste terminer par les versets 30 et 31. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété. Nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ s'il est mon Sauveur et mon Seigneur. J'appartiens à Christ. J'ai été scellé du Saint-Esprit. Je lui appartiens. Personne ne peut m'enlever cela. Mais ma responsabilité, c'est de veiller à mon attitude afin de ne pas attrister ce Saint-Esprit qui est en moi. Ce Saint-Esprit qui est venu faire son habitation dans ma vie. Ce Saint-Esprit qui m'a scellé, qui fait que je suis enfant de Dieu. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Quand je lis ça, je me dis, waouh, quel programme! Et ce n'est pas le programme d'une année scolaire. C'est le programme de toute une vie. Est-ce qu'on est prêt, frères et sœurs, amis, à vouloir rentrer dans ce programme? Est-ce qu'on est prêt à vouloir nous mettre à l'école de Christ et à dire « Oui, Seigneur, je veux marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle tu m'appelles. Je veux saisir tes promesses. Je veux saisir tes bénédictions. Je sais que sans toi, j'y arriverai pas. Je sais que, tu vois, là, c'est pas une marche que tu me demandes de franchir, c'est un escalier. Mais je veux franchir cet escalier avec toi. Si nous prenons cet engagement, je peux vous certifier qu'avec la grâce de Dieu, on y arrivera. Qu'avec la grâce de Dieu, on franchira non pas une marche, mais deux, mais trois, et l'escalier tout entier. Peut-être que ça prendra toute une vie. Mais par la grâce de Dieu, on y arrivera. Ne laissons pas des petites situations gangréner nos vies. Ne laissons pas des choses prendre le dessus sur nous. Mais soyons des hommes et des femmes intelligents. Dieu nous a fait avec un cerveau. Dieu nous a fait avec une intelligence pour pouvoir réfléchir. Et nous placer devant lui. À chaque fois que je me place peut-être dans une situation compliquée, où est-ce que j'ai mis mon cerveau? Je cherche un petit peu là. Mais je le fais exprès parce que des fois, je me dis la même chose à moi. Il est où ton cerveau là, dans telle ou telle situation? Tu l'as mis où? Est-ce que tu as pris le temps de réfléchir? Souvent, la solution, elle se trouve dans la dernière phrase du verset. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Des fois, tout est une question de point de vue. Peut-être que vous avez déjà vu cette image de cet homme qui se trouve dans la savane, qui se trouve en face de ce lion et qui prie « Seigneur, donne à ce lion une pensée chrétienne. » Et vous savez ce que pense le lion ? Merci Seigneur pour ce bon repas. Parfois, c'est une question de point de vue. Et mon point de vue n'est pas celui de l'autre. Parce que nous avons des vécus complètement différents. Nous avons des passifs complètement différents. Soyons bons et compréhensifs les uns envers les autres, toujours prêts à nous pardonner. réciproquement, toujours prêts à nous pardonner réciproquement, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Seigneur, merci. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants. Et en faisant de nous tes enfants, tu nous as donné ton Saint-Esprit, par lequel nous crions « Abba, Père ». Seigneur, merci parce que nous pouvons t'appeler Père. Oh Seigneur, nous avons tellement besoin de toi dans cette marche dans laquelle tu nous appelles. Que tu nous aides, Seigneur, à mettre de côté nos divergences pour que nous puissions, Seigneur, regarder à toi, compter sur toi, avancer avec toi, te plaire toujours plus, Seigneur, dans nos vies. Que tu nous aides à rechercher ta face, que tu nous aides chaque jour à revêtir l'homme nouveau, parce que tu as fait de nous des nouvelles créatures. Donne-nous de nous rappeler cette vérité essentielle. Donne-nous de nous rappeler que tu as comblé tous nos besoins en Jésus-Christ, que nous avons besoin de rien d'autre que toi. Amen.